Bonjour, eh bien nous nous retrouvons pour l'émission Témoin et nous allons discuter avec mon témoin d'aujourd'hui, Alain Martin, de cette notion des pèlerinages, puisque c'est la saison. Bon, c'est vrai qu'en ce moment il fait plutôt mauvais, donc pour les pèlerinages ils sont un peu mouillés, mais tout de même, on perçoit qu'autour de la Pentecôte et l'été, il va y avoir un certain nombre de pèlerinages. Alors ici, ce sont les pèlerinages, bien sûr, les grands pèlerinages que l'on connaît dans la chrétienté, les grands sanctuaires comme Lourdes, Fatima, la Salette, enfin bon, plus près de nous, on va vénérer les saints. Alors c'est Sainte Thérèse à Lisieux, c'est Pontmain, c'est bref. Et puis surtout maintenant, ça redevient, je dirais, à la mode. Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière cette manière de redécouvrir une dimension de la vie de foi et de la vie chrétienne ?
Oui, bonjour. Eh bien, moi j'ai l'opportunité là de vivre depuis quelque temps des pèlerinages. Il y a le pèlerinage paroissial depuis à peu près une douzaine d'années, que nous faisons donc toujours à la même époque, fin mai ou début juin. Et personnellement, j'ai vécu aussi le pèlerinage en Terre Sainte il y a quelque temps. Il y aura aussi un pèlerinage diocésain, cette fois-ci le 11 septembre. Alors pourquoi pèleriner ? Bien sûr, il y a les lieux qui ont de l'importance.
Oui, parce que les lieux, ça reste une réalité. En fait, on sait qu'il y a des tas de choses dont on ne sait pas si c'est mythique ou pas, mais quand on va en Terre Sainte, eh bien, il y a des lieux qui sont une réalité. Ouais. Là, on se rappelle que Jésus était juif et que ici à Capharnaüm, on lit Capharnaüm, effectivement, ça a un autre sens que lire Capharnaüm dans une église. Quelqu'un qui le savait très bien, c'est Napoléon, hein, qui appelait ses victoires Bethléem et compagnie. En disant, bon, si je parle d'un bled quelconque, mais si je parle de la victoire de Bethléem, là au moins...
On sait de quoi on parle.
On sait de quoi on parle, même quand on est complètement ignorant dans les campagnes françaises au temps de Napoléon Ier. Bon.
Oui, alors moi je pense que...
Bon, réalité des lieux, c'est ça.
Oui, réalité des lieux, marcher un peu dans les pas du Christ, quoi. En Terre Sainte, quand on est au bord du lac de Tibériade, on sait que le Christ a été là, quoi. Il a été là, il a prêché, là, il a permis aux gens de
pas
de
forcément
retrouver
cette prairie, mais enfin quand même, oui, là, il y a une réalité des lieux.
Il y a une réalité des lieux, et ça touche, et ça a de l'importance. Le fait aussi de sentir le climat, la chaleur ou l'humidité, enfin bref.
Oui, ça a de l'importance parce que ça veut dire qu'il y a une matérialité de cette foi chrétienne.
Absolument.
Il y a quelque chose derrière la foi chrétienne, il y a un enracinement réel.
C'est ce que j'allais dire, oui. Voilà, on sent nos racines à cet endroit-là. Il y a aussi des lieux comme Rome, là, qui sont des villes qui sont justement le berceau là, de la chrétienté. Et là aussi, on sent que faire un pèlerinage à Rome, ça prend de l'importance pour le chrétien que, en tout cas pour moi, le chrétien que je suis, quoi. Et puis, plus près de nous, il y a Chartres, qui est quand même un grand lieu de pèlerinage. Et c'est pour ça que, eh bien, dans notre...
C'est pour ça qu'on a construit la cathédrale, d'ailleurs.
D'ailleurs aussi, je l'imagine. Hein. Et en tout cas, pour la paroisse de Saint-Étienne-en-Drouais, c'est un rendez-vous qui est maintenant annuel et auquel beaucoup de chrétiens de la paroisse s'intéressent, puisque, voilà, je disais, ça fait une douzaine d'années que ce pèlerinage existe. Alors, la raison pour aller à Chartres, eh bien, voilà, c'est d'aller prier Marie, et lui rendre grâce ou lui demander sa protection ou sa bénédiction. Et,
c'est-à-dire qu'il y a une démarche tout à fait personnelle. Alors, les uns demandent, les autres rendent grâce, voilà. Les autres... Mais ce qui me paraît intéressant, c'est le fait de faire ça ensemble, avec d'autres, et on peut parler.
Oui, parce que quand on marche, on peut bien sûr rester silencieux, mais c'est aussi l'occasion de partager avec la personne qui se trouve à côté de nous, hein, un peu par hasard, quoi, et avec qui on peut échanger, méditer, prier. Parce que bien sûr, nos pèlerinages ne se contentent pas de marcher, mais on chante aussi. On a des textes pour méditer si on le désire, et on prie avec les pieds malgré tout.
On prie avec les pieds, mais on a le temps d'échanger avec les autres sur sa foi. Je trouve que ça, c'est important. Oui. Parce que finalement, il y a des conférences, mais les conférences, on reçoit un enseignement. Enfin, dans beaucoup de cas, on reçoit un enseignement. Et là, on peut échanger.
Tout à fait. Et surtout que ça dure quand même, là, dans le cas de le pèlerinage paroissial, on va marcher pendant, pour ceux qui seront les plus courageux, les plus téméraires, pendant plus de 25 kilomètres, ça nous laisse le temps de partager.
Oui, ça fait 5-6 heures, ça, voilà, on a le temps de,
exactement,
voilà, de partager le repas aussi, enfin donc des temps un peu importants. Alors c'est vrai que les lieux de pèlerinage se sont multipliés, parce qu'on évoquait Rome, on évoque les grands pèlerinages à Marie. Et puis, il y a, bien sûr, Saint Jean-Paul II, donc un certain nombre de pèlerinages en Pologne. Est-ce que dans la préparation, par exemple, pour le pèlerinage qui va avoir lieu, le pèlerinage de la paroisse, le thème c'est Laudato Si.
Voilà. Nous avons chaque année cherché des thèmes pour enrichir notre pèlerinage, et cette année ce sera donc la joie et la paix. Hein. Nous avons pensé que c'était très important aujourd'hui de réfléchir sur ces notions de paix et de joie. Donc tout au cours de notre marche, eh ben, nous aurons la lecture des textes, enfin de quelques articles de
Laudato
Si, et puis eh bien nous serons invités à réfléchir, à partager sur ces thèmes-là, à donner notre sentiment, notre point de vue, notre recherche, nos interrogations également sur ce sujet, quoi.
Oui, parce que Laudato Si, c'est tout de même, c'est à la fois peut-être la joie et la paix lorsque on fait ce que le pape demande, mais c'est vrai aussi qu'il y a tout cet environnement, et Laudato Si quand même pose la question d'un environnement difficile, pose la question d'une société qui, parce que derrière l'environnement et derrière tout est lié, nous dit-il, et il y a ces questions de mais toutes ces populations qui restent sur la touche, tout ce monde qui n'est pas spécialement chrétien. Donc c'est au travers, la démarche c'est au travers de ces réalités, comment le chrétien peut se situer et être source de joie pour les autres.
Voilà. Et prendre le temps d'y réfléchir tout en marchant, eh bien voilà, c'est une occasion un petit peu privilégiée de pouvoir le partager avec d'autres, quoi, hein, ces réflexions.
Donc partager avec d'autres ces réflexions. Et aussi, vous prévoyez le pèlerinage des familles. Je trouve que c'est intéressant, cette dimension des familles.
Oui.
Parce que souvent, on parle de la crise de transmission. Oui. Alors, j'aimerais que vous nous parliez de ça, d'autant plus que vous venez de baptiser les petits-enfants.
Oui, voilà, c'est ça. Je suis en plein dans les baptêmes en ce moment. En fait, la définition du pèlerinage diocésain qui aura lieu le 11 septembre, c'est le pèlerinage pour les familles. Puisque voilà. Nous considérons que chacun d'entre nous a une famille, bien sûr, qu'on soit célibataire, qu'on soit marié, qu'on soit en couple, qu'on soit dans une vocation religieuse. De toute façon, on a tous une famille, ou nous avons tous eu une famille. Voilà, donc c'est cette dimension que l'on voulait apporter, puisque tout le monde est concerné par la famille. Et le pape, dans sa dernière exhortation apostolique, a donc développé, bien sûr, tout ce thème de la famille. Et ce sera aussi sur ce thème-là que nous réfléchirons avec nos responsables paroissiaux et même diocésains, puisque notre évêque participera ainsi que le vicaire général.
Alors, pèlerinage pour les familles, ça veut dire qu'en fait, il y a ce lieu favorable, mais qui en même temps est très fragilisé à notre époque, la famille, les familles.
Oui, certes.
Et ça n'est plus le lieu où se vit la vie de foi comme l'image que l'on peut en avoir, parce que ce que c'était réellement, on ne sait pas, mais l'image qu'on peut en avoir à travers, disons, les légendes familiales.
Oui, bien sûr. La transmission qui se faisait un petit peu naturellement à travers les générations a été rompue, puisque maintenant il est très rare de trouver dans une famille plusieurs générations qui cohabitent. Alors il y a déjà donc une transmission qui a été perdue. Je pense aussi que c'est vrai que tout ça s'est un petit peu délité au fur et à mesure des années.
Et puis les familles sont... Avant, il y avait quand même la famille, la mère, des gens qui étaient au centre, le pivot. Et puis maintenant, quand même, La vie fait que voilà. C'est rare de... Souvent on déménage, les jeunes vont vivre loin.
Absolument, on est maintenant dans des familles qui sont facilement éclatées, quoi, hein, qu'ils se retrouvent qu'à des occasions de plus en plus rares, puisque les mariages également se font rares. Et alors il y a encore les obsèques qui réunissent les familles, mais c'est d'ailleurs un moment où effectivement on peut être en communion entre les membres de la famille, même si c'est parfois triste ou douloureux. Mais c'est vrai que voilà, la famille est éclatée et c'est important, le pape nous le rappelle, que la famille c'est le cœur même de l'éducation à la foi.
La première cellule d'église en fait.
Oui, et c'est, voilà, c'est la petite église comme il est dit.
Lui parle beaucoup de sa relation avec sa grand-mère entre autres.
Oui, c'est exact, oui. Et alors donc, l'idée c'est d'essayer de reprendre ces thèmes en disant voilà, oui, la famille c'est important, même si la famille est éclatée, même si la famille est séparée, même si la famille est reconstituée, il y a toujours cette chose capitale qui est donc le lieu où l'on peut partager, où l'on peut retrouver le sens de notre foi.
Peut-être le lieu où on peut être totalement libre, avoir une parole totalement libre, parce que ailleurs...
Doute. C'est plus difficile.
On se pose toujours la question de comment l'autre va réagir. Alors, le milieu familial est quand même un milieu où on a pu se battre, se disputer, s'envoyer les piques,
mais
se
aussi
chamailler,
se pardonner, se réconcilier. Voilà, c'est ça. Hein. Et c'est vraiment image de l'Église, hein, la famille.
C'est le lieu le plus riche, en effet.
Voilà.
Donc, pèlerinage des familles, c'est le 11 septembre, on en reparlera. Le pèlerinage de la paroisse, c'est...
C'est le 12 juin, c'est donc très proche.
Et on peut dire très concrètement...
Oui, alors très concrètement, il y aura plusieurs départs possibles, de façon à ce que chacun puisse trouver...
marche à sa convenance, y compris les trois
derniers
kilomètres. La
marche qui lui convient, voilà.
Hein. Ou même arriver devant la cathédrale.
Absolument, puisque l'aboutissement est bien sûr le passage à la cathédrale où nous irons prier près de la Vierge du Pilier, comme chaque année. Alors, il y a donc un départ à Ormois, à 9h du matin, pour donc les plus courageux, si on peut dire. Ensuite, d'autres pourront nous rejoindre dans une deuxième étape à Saint-Chéron-des-Champs. Une troisième étape est à Berchères-la-Mingo, étape au cours de laquelle nous pourrons pique-niquer ensemble.
Le déjeuner, donc.
Voilà. Ensuite, encore une étape à Poivilliers. Oui, on se rapproche de plus en plus de Chartres. Et une dernière étape à Lèves, enfin une avant-dernière étape à Lèves, si je peux dire, puisque là, nous vivrons la messe dans l'église de Lèves. Et ensuite, eh bien, départ vers la cathédrale où nous passerons la porte sainte et nous irons prier Marie.
Eh bien, merci Alain Martin d'être venu nous parler des pèlerinages et de cette vie de foi qui se réalise peut-être différemment, mais qui est en tout cas une expérience à laquelle nous ne pouvons que vous inviter. Et aux uns et aux autres, je dis au revoir, bonne semaine. Et puis si vous pouvez, bon pèlerinage.